RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Le journal, c'est avec Marie Cazadebé. Bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. À la une de l'actualité, l'opposition guinéenne, toujours à Ouagadougou. Elle n'a finalement pas claqué la porte au nez de la médiation. Les forces vives vont jusqu'à demain pour répondre point par point au projet d'accord de Blaise Compaoré, qui préconise notamment le maintien du capitaine Camara au pouvoir d'ici les élections. La CEDEAO vient d'adopter une nouvelle convention sur les armes légères. Les pays de la région s'engagent à plus de transparence sur la production et la circulation de leurs armes. On pourrait ne jamais connaître les résultats des tests de féminité de Caster Semenya. L'Afrique du Sud et la Fédération internationale d'athlétisme se sont mis d'accord pour ne pas les communiquer. Réunie à Monaco, la fédération n'a pas dit un mot sur cette affaire. Après la colère, place aux négociations pour les forces vives de Guinée. L'opposition guinéenne n'a pas récusé le médiateur Blaise Compaoré. Elle n'a pas quitté non plus Ouagadougou après son entretien hier avec le président burkinabé. Ce dernier préconise, pour sortir la Guinée de la crise, de mettre en place un conseil de transition pour préparer des élections sous 10 mois. Et avec, à la tête de ce conseil, on retrouverait le chef de la junte, Moussa Dadis Camara. Et c'est bien ce point qui a mis le feu aux poudres vendredi dans les rangs de l'opposition. Retour au calme donc aujourd'hui. Les forces vives ont jusqu'à demain pour répondre point par point à ce projet d'accord. Selou Dalaïn Diallo est le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée.
Le président nous a demandé d'écrire les griefs qu'on avait contre le projet d'accord qu'il nous a soumis et surtout de lui dire qu'est-ce qui est essentiel pour nous dans cette négociation. Les points essentiels, je crois qu'on l'a suffisamment dit, nous ne voulons pas du tout que la transition soit gérée par le capitaine Dadis et par le CNDD. Conformément à la recommandation pertinente du groupe international de contact qui s'est tenu à Abuja au mois d'octobre, nous avons demandé que le CNDD soit dissous et que soit mise en place une nouvelle autorité de transition qui pourrait être dirigée par une personnalité consensuellement choisie, cette personnalité pouvant être bien sûr civile ou militaire.
Mais vous restez dans la médiation avec le président Blaise Compaoré?
Non, on n'a jamais récusé la médiation du président Blaise Compaoré. On a simplement exprimé notre désaccord par rapport au projet d'accord qui nous était soumis. Parce que là, on n'était pas d'accord, on a dit que ce document ne pouvait pas être un document de base pour la discussion.
C'était Selou Dalaïn Diallo, le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Hier, Blaise Compaoré s'est également entretenu avec une délégation de la junte. Tout autre ton, le CNDD, lui, se dit globalement satisfait par les propositions du médiateur. Il doit néanmoins rediscuter du texte avec le capitaine Camara à Conakry avant de revenir mardi à Ouagadougou, comme nous l'explique Idrissa Chérif, ministre de la Communication à la présidence guinéenne.
Nous avons été reçus par le médiateur et nous lui avons fait des remarques sur les propositions qu'il a eu à nous donner.
Donc, si vous avez fait des observations, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec l'ensemble du document?
Effectivement, nous ne sommes pas d'accord sur tous les points. Il y a des choses que nous pouvons accepter, il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter parce qu'il faut reconnaître que c'est le CNDD qui a pris le pouvoir. Donc, ce pouvoir, pour pouvoir le partager, je pense qu'il y a des concessions que nous pouvons faire, il y a des endroits où nous ne pouvons pas faire des concessions. On veut tous faciliter la tâche au médiateur. Je pense qu'on fera des concessions, mais il y a des endroits auxquels il faudrait que nous ne pouvons pas répondre, il faut que nous retenions à la base. Par exemple, sur le délai de 4 mois, si le président veut être candidat et qu'il doit démissionner 4 mois après, ça fait des débats. Et puis le choix du premier ministre qui est choisi par l'opposition, alors qu'il faudrait que ça soit un premier ministre qui soit choisi par un consensus, c'est-à-dire que par l'ensemble de tous les partis. Le premier ministre devient le chef du gouvernement donc, et qui doit aussi co-signer certains décrets. Donc, il y a des choses auxquelles nous ne pouvons pas reprendre pour l'instant. Il faudrait que nous retenions la base pour pouvoir informer directement le CNDD et le chef de l'État.
Des propos recueillis par Alpha Barry. RFI l'avait déjà évoqué, des mercenaires sud-africains sont actuellement en Guinée pour appuyer la junte. Ces mercenaires opéraient notamment dans un ancien camp de réfugiés à Forêt-Caria, à une centaine de kilomètres au sud de Conakry. Le CNDD dément leur présence, mais pour David Zoumenou qui travaille sur cette question pour l'Institut d'études stratégiques basé à Johannesburg, des mercenaires sud-africains sont bien arrivés en Guinée au mois d'octobre.
Nous savons qu'il y a environ une cinquantaine de mercenaires sud-africains qui ont été recrutés par une compagnie de sécurité privée qui est basée à Dubaï. Et leur mission est de donner une certaine formation aux éléments de la junte et des milices pour assurer la sécurité et la protection soit de David Camara ou de ses forces de sécurité. Leur autre mission, c'est d'assurer la livraison des armes, et lesquelles viennent de l'Ukraine pour renforcer un peu l'arsenal militaire dont dispose déjà la junte au pouvoir en Guinée-Conakry.
Combien sont-ils payés et par qui sont-ils payés?
Les mercenaires sont payés 400 dollars comme salaire mensuel, mais les agents qui sont sur place et qui ont procédé à leur recrutement sur place en Afrique du Sud leur ont offert 500 rand, l'équivalent de 5 euros par jour, et leur ont fait des promesses mirobolantes qui sont difficiles à tenir.
C'était David Zoumenou de l'Institut d'études stratégiques de Johannesburg. Leurs différents frontaliers, Ouagadougou et Niamey, ne parviennent pas à le régler. Ils vont donc le soumettre à la Cour internationale de justice. Les parlements du Burkina Faso et du Niger ont donné leur accord pour la saisine de la juridiction de l'AE. Depuis leur décolonisation, les deux pays tentent de matérialiser leurs frontières, mais des divergences sont apparues sur certains points de bornage. Selon Ouagadougou, ce différend porte sur plus de la moitié de la longueur de la frontière. Il ne manquait plus que la signature du Bénin. C'est chose faite. La convention de la CEDEAO sur les armes légères peut entrer en vigueur. Ce texte est bien plus contraignant que le moratoire qui existait jusqu'ici. Il encadre la production, la détention et la circulation des armes dans la région. Les précisions de Laurent Courroy, Dakar.
Les pays d'Afrique de l'Ouest ambitionnent avec cette convention de créer les conditions d'un meilleur contrôle de la production et de la circulation des armes légères dans la sous-région. D'abord la fabrication. Les États membres s'engagent à établir une liste exhaustive des producteurs qui existent sur leur territoire et à transmettre des données annuelles à la CEDEAO. Ensuite, la circulation. Les pays d'Afrique de l'Ouest se fixent l'objectif de réglementer la détention, l'usage et le commerce des armes. Ils décident de procéder au marquage des armes et des munitions pour assurer leur traçabilité. Ils posent le principe d'une licence pour chaque arme de petit calibre détenue par un civil, s'engagent à créer une banque de données et interdisent également le transfert d'armes à des acteurs non étatiques si ce transfert n'est pas autorisé par leur État. Le texte est ambitieux, certaines dispositions seront difficiles à mettre en œuvre, parfois peut-être impossibles, mais cette convention a le mérite de fixer un cadre contraignant pour les États, même s'il prévoit des dérogations. Ce texte enfin établit des mécanismes de coopération qui devraient faciliter la lutte contre la prolifération. Laurent Corot, Dakar, RFI.
En Angola, José Dos Santos promet devant son parti la tolérance zéro face à la corruption. Un mot d'ordre prononcé à quelques jours du 6e congrès du MPLA. Selon le chef de l'État au pouvoir depuis 30 ans, cette situation a entraîné la dilapidation des ressources du pays. Mardi dernier, l'ONG Transparency International a publié son classement sur la corruption. Sur 180 pays, l'Angola régresse de la 158e place en 2008 à la 162e en 2009. En France, plusieurs ONG appellent les autorités à arrêter les responsables des FDLR qui vivent sur le sol français. Amnesty International ou encore le collectif des partis civils pour le Rwanda demandent à Paris d'assumer son rôle dans la lutte contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Mardi dernier, le chef de la rébellion hutu-rwandaise qui sévit dans l'est de la RDC et son adjoint ont été arrêtés en Allemagne. Les ONG appellent donc la France à faire de même. On ne connaît pas encore la nouvelle date de la présidentielle ivoirienne, mais on connaît au moins le nombre de candidats en lice. Ils sont 14 à ce jour, dont la candidature a été validée par le Conseil constitutionnel. On retrouve sur la ligne de départ les trois poids lourds, Laurent Gbagbo, Henri Conan-Bédier et Alassane Ouattara, mais aussi des candidats moins connus comme Adama Daïko, qui a pris le parti d'en rire, son portrait par Cyril Ben-Simon.
Adama Daïko jure qu'il sera le candidat le plus drôle, celui dont les meetings seront les plus gais. Mais nul doute, l'humoriste a changé. Le leader du parti d'en rire, le Doro Mikan, a troqué sa tenue de clown pour le costume de politicien.
Nous allons continuer à faire rire, mais dans le rire, nous ferons prendre conscience. Nous allons faire la moralisation de la vie publique parce que la discipline a foutu le camp. Nous allons exhorter les jeunes au travail, faire comprendre aux Ivoiriens qu'il faut aller au travail à l'heure, aux autorités politiques et administratives, qu'il faut venir aux cérémonies à l'heure.
Adama Daïko promet notamment d'apaiser les tensions politiques et de réunir le pays. Né en Côte d'Ivoire il y a 41 ans de parents maliens, il est le premier candidat naturalisé à la présidentielle. Une candidature qui a été rendue possible grâce à une dérogation spéciale du président Gbagbo.
Je suis un fils du pays, je suis toujours en Côte d'Ivoire, j'ai toujours œuvré pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, si on estime que je dois bénéficier de certains avantages, mais c'est de bonne guerre.
Pour entrer dans la course, Adama Daïko a dû verser une caution de 20 millions de francs CFA. Alors, où a-t-il trouvé l'argent?
Ben, Adama Daïko est le fondateur d'un festival, le Festival international du rue d'Abidjan, qui a un budget de 40 millions de francs CFA chaque année. J'ai des sponsors de téléphonie, donc si je demande des avances à au moins 4 partenaires, je pense que regrouper 20 millions, c'est aussi facile en Côte d'Ivoire.
Adama Daïko ambitionne d'aller au second tour, mais si tel n'est pas le cas, pour qui appellera-t-il à voter? J'aviserai au moment opportun, réplique l'humoriste. Une vraie réponse de politicien.
Sans surprise, les Malgaches ne connaissent toujours pas la composition de leur gouvernement d'union nationale. Les quatre mouvances politiques étaient censées publier la liste des ministres hier, mais les négociations bloquent toujours. 15 jours après le sommet d'Addis Abeba, les quatre leaders devraient donc se retrouver autour d'une même table et selon l'un des proches d'Albert Zaf, cette réunion pourrait avoir lieu à l'étranger. Après un mois et demi de cauchemar, les membres d'équipage espagnol de l'Alacrana sont arrivés hier à Madrid sur un vol militaire spécial. L'Alacrana, un Tony avec à son bord 36 personnes, a été capturé début octobre par des pirates somaliens. Ils ont été libérés mardi dernier contre une rançon de 4 millions de dollars selon les ravisseurs. Depuis cette affaire, une cinquantaine de gardes privés armés ont pris place à bord des Tonys espagnols qui pêchent dans l'océan Indien. L'affaire Semenya est encore loin d'être classée. La Fédération internationale d'athlétisme reste muette sur les tests de féminité de la championne olympique du 800 mètres. Réunie à Monaco, elle devait annoncer les résultats vendredi, mais finalement, pas un commentaire. Des résultats qui, en accord avec le gouvernement sud-africain, resteront secrets. Reste à savoir dans quelle catégorie l'athlète courra à l'avenir. Mais pour Pretoria, son cas ne fait aucun doute. L'Afrique du Sud continue à célébrer sa championne. À Johannesburg, les précisions de Sophie Ripstein.
Castor a été innocentée de tout blâme, elle gardera donc sa médaille d'or. C'est ce qu'a assuré cette semaine le ministère sud-africain des Sports. Pourtant, la Fédération internationale d'athlétisme n'a pas annoncé les résultats des tests de féminité comme attendu ce vendredi. Le dossier médical de l'athlète va rester confidentiel. Là-dessus, les autorités sud-africaines, les avocats de Castor et la Fédération internationale se sont bien mis d'accord. Il s'agit de protéger la jeune sportive qui se dit très fatiguée et traumatisée par la polémique. D'après un quotidien australien, Castor Semenya serait hermaphrodite. Elle n'aurait pas d'ovaires, mais des testicules internes qui produisent beaucoup de testostérone. Visiblement embarrassée par l'ampleur de l'affaire, la Fédération internationale assure ne poursuivre ce week-end que les discussions sur l'éventuel retour de la championne sur les pistes. Elle a aussi chargé sa commission médicale de mieux définir ce qu'est le genre féminin pour éviter tout nouvel imbroglio. Sophie Epstein, Johannesburg, RFI.
RFI, il est 6h43 en temps universel, c'est la fin de ce journal.